L'affiche du colloque qui résume à elle seule l'ambition du projet, un projet qui est à l'initiative d'enseignants-chercheurs dont certains avaient une ancienne carrière dans le premier degré, qui sont tous investis d'une façon ou d'une autre dans la formation initiale et continue, notamment des professeurs des écoles. Et un projet qui est devenu le projet fédérateur du laboratoire EMA, avec pour objectif de rassembler dans un même espace scientifique la recherche sur l'école primaire en France et au-delà de nos frontières, et de la faire dialoguer avec les partenaires institutionnels que sont l'éducation nationale, l'université dans sa mission de formation et en son sein les INSPE, mais aussi, comme vous le voyez, les territoires, les mouvements pédagogiques, les mouvements d'éducation prioritaire. Donc, plus de 1000 personnes qui se sont retrouvées donc, en octobre 2021 à Cergy. Donc, après ce colloque, nous avons souhaité mettre au plus vite à disposition de la communauté éducative des recherches qui ont été présentées, ainsi que des expérimentations pédagogiques, et nous avons différé à 2025 la publication de l'ouvrage de référence. Alors, le cahier pédagogique... que j'ai coordonné avec Pascal Ponté, qui est ici, et avec Sylvain Connac de Montpellier, était donc un premier état de la recherche pour mettre en dialogue ces questions professionnelles avec différents éclairages de recherche. On ne parle pas de la recherche avec un grand R, mais de recherche contextualisée. Et donc l'ouvrage, donc l'école primaire au XXIe siècle, je vais apporter mon exemplaire, il pourra circuler si vous le souhaitez, mais je vais le faire passer. Marc a rappelé les quatre parties qui le constituent. Donc nous avons souhaité dans cet ouvrage, qu'on a conçu un petit peu comme l'ouvrage de référence, les conférences plénières, des synthèses des différents axes du colloque qui ont été nourris par des articles scientifiques issus des communications. Pour certains chapitres, nous avons souhaité solliciter d'autres intervenants de façon à combler ce qui nous semblait des manques. Bruno en parlera. Donc, la première partie, devenir professeur des écoles, c'est Patrice qui va y venir. Et je salue ici Laurent Alexandre qui a contribué à l'un des chapitres et Pascal qui a coordonné avec moi la synthèse de l'axe recherche et formation. Voilà, la deuxième partie sur la polyvalence et savoir scolaire, les dispositifs, donc je vais en prendre la présentation. Et les troisième et quatrième parties seront présentées par Bruno. Voilà, comme vous le voyez, j'ai repris là les titres de nos présentations. On a souhaité avoir ces regards croisés sur l'ouvrage. Donc, pour ma part, j'ai retenu trois apports du colloque qui me semblaient en résonance avec les travaux de l'OZP. Donc, l'actualité de la recherche sur l'école maternelle, le potentiel formatif des dispositifs collaboratifs et cette question à fort enjeu social qu'est la compréhension de l'écrit. Ensuite, Patrice abordera la question de la formation initiale des professeurs des écoles et Bruno, à partir du concept de la forme scolaire qui a été travailler dans le cadre du colloque. Il montrera en quoi c'est un concept pertinent pour analyser les mutations institutionnelles et débattre des alternatives possibles à l'école. Alors, s'agissant de ma proposition, j'ai choisi pour chacun des trois points que j'ai retenus dans la deuxième partie de l'ouvrage, polyvalence savoir scolaire, dispositif d'enseignement et apprentissage, mais aussi dans l'axe recherche et formation qui prolonge la première partie. Donc j'ai choisi de présenter ces questionnements de façon synthétique en présentant d'abord des questions, dans un second temps un aperçu des façons d'approcher la complexité de ces questions selon les recherches, et j'ai terminé à chaque fois par un focus sur une recherche qui me semblait illustrer la démarche. Alors, s'agissant de l'actualité de la recherche sur l'école maternelle, j'ai extrait les questionnements de la conférence de Pascal Garnier, qui correspond au chapitre 2, l'école maternelle au XXIe siècle, éléments pour une analyse de ses mythes et de ses enjeux contemporains. Donc la question la question sur les effets de la scolarisation précoce n'est pas une question neuve. Vous l'avez travaillé à l'OZP. Dans son intervention, Pascal Garnier est revenu aux travaux du GREDEM. Alors que certains d'entre vous connaissent bien le groupe de défense et de rénovation de l'école maternelle qui, dès les années 70, a commencé à attirer l'attention sur cette question. Le GREDEM, c'était un mouvement, je le dis pour les plus jeunes, qui avait mobilisé à la fois des syndicats, des mouvements pédagogiques, des associations familiales, et qui a critiqué cette tendance à une primarisation de l'école maternelle. À la suite, plusieurs recherches ont documenté la fabrication des inégalités au sein même de l'école maternelle par le biais de mesures censées les combattre. Et la question des transitions est apparue d'autant plus cruciale à penser que les inégalités d'accueil extrafamilial des enfants de 0 à 3 ans sont très marquées socialement. Et on a pu constater que les programmes compensatoires avaient leurs limites, alors que des dispositifs comme les classes passerelles qui permettent de conjuguer différentes professionnalités, la culture professionnelle de l'éducatrice, de l'enseignante, de l'éducatrice de jeunes enfants, de l'ATSEM, peut améliorer les conditions d'accueil à la fois des enfants et de leurs parents. Et la rencontre de ces différentes cultures est propice à se questionner sur ce que c'est qu'apprendre à cet âge de la vie. Et de ce point de vue-là, au-delà de nos frontières, il y a sans doute des enseignements à tirer du développement du préscolaire dans les pays nordiques notamment, mais pas seulement, avec des groupes d'enfants d'une taille limitée, de 0 à 6 ans, une prise en compte du développement global de l'enfant et le début d'un apprentissage d'une vie démocratique. Oh, pardon. Alors, s'agissant des recherches actuelles qui abordent la complexité de ces questions, l'approche historique est éclairante. Et on l'a vu avec les travaux du GREDEM. On l'a vu également au colloque avec ceux de Christophe Joigneau qui remonte plus loin en constituant un corpus de prescriptions de revues pédagogiques et de manuels de 1881 à 2015 et qui met en évidence des pratiques langagières de plus en plus décontextualisées, hein, susceptibles, on le sait, de contribuer à la reproduction des inégalités. Alors, pour comprendre les effets de cette décontextualisation, la recherche met au jour des savoirs cachés, hein, savoirs cachés dans les situations d'apprentissage. Elle décrit également des logiques d'action, hein, des enfants qui mobilisent différemment, hein, ces savoirs cachés, ces savoirs proto-didactiques. Et l'interprétation de ces situations appelle la prise en compte de la parole des éducateurs, mais aussi des enfants, avec des modalités particulières à rechercher pour recueillir, je dirais, le point de vue de très jeunes enfants. Ça nécessite à la fois une attention à la parole, mais également au langage corporel, tant des enfants que de ceux qui entrent en interaction avec eux, et des observations pédagogiques sur la durée, des temps longs d'observation participante dans des classes, comme j'ai choisi de le montrer à travers un article qui est une publication issue du colloque également, que vous connaissez peut-être. C'est un travail que Julien Netter et Christophe Joigneau ont mené dans une classe de moyenne et grande section, hein, de Seine-Saint-Denis, qu'ils ont observé pendant une année scolaire, le matin. L'intérêt, c'est qu'ils observaient une classe dans laquelle deux enseignantes alternaient. Deux enseignantes, donc exerçant à mi-temps, qui disent toutes deux pratiquer des pédagogies de l'autonomie avec des ateliers tournants. Et pour autant, une observation minutieuse révèle des différences importantes selon que l'autonomie est requise d'emblée ou qu'elle est construite avec l'étayage de l'enseignante qui explicite ce que la classe est en train de vivre, ce que les élèves sont en train d'apprendre. Et ces différences, hein, vous le voyez, se manifestent dans des domaines différents. Hein. Elles permettent de distinguer une pédagogie de l'autonomie qui vise à court terme, hein, la réalisation de l'activité attendue, l'énonciation de la bonne réponse, le respect des règles de la vie de la classe, par opposition à une pédagogie de l'autonomie qui va prendre plus de temps, qui repose sur une autre forme d'apprentissage et qui vise à développer des compétences qui permettent à plus long terme le transfert des compétences travaillées dans une situation donnée. Mais le problème sur lequel concluent, hein, les auteurs, c'est que cette pédagogie qui s'appuie sur un recours constant au méta, donc à une réflexivité, elle a pour l'enseignant un coût en termes de préparation en dehors de la classe, en termes d'attention extrême pendant la classe, de disponibilité cognitive, et elle reste de ce fait minoritaire parce qu'elle ne bénéficie pas suffisamment d'une reconnaissance institutionnelle, d'un accompagnement dans le cadre du système éducatif. Le deuxième apport du colloque que je voudrais aborder, c'est le potentiel formatif, hein, des dispositifs collaboratifs. Avec cette question, à quelles conditions, hein, ce type, cette collaboration, hein, peut être source de développement professionnel et de connaissances nouvelles. Alors cette question va être dépliée par les suivantes, mais cela suppose d'abord, même si beaucoup d'entre vous le connaissent bien évidemment, de définir ce qu'on entend par ces approches collaboratives, à savoir des approches qualitatives qui partent du point de vue des acteurs de terrain sur leurs propres pratiques pour construire de nouvelles connaissances par un travail collaboratif avec des chercheurs dans une visée qui est à la fois compréhensive et transformative. Et pour autant, le point de vue des acteurs ne donne pas directement accès à une question de métier. Un déplacement va être nécessaire pour transformer les attentes individuelles en questions portées par un collectif au niveau d'une école ou d'un territoire, et c'est ce qu'un certain nombre de recherches qui ont été présentées dans le cadre du colloque illustrent. Par exemple, je pense à cette recherche menée dans une école de REP+, en collaboration avec la Fédération de recherche d'Aix-Marseille, où une demande de progression de l'école sur l'enseignement de la soustraction au cycle 2 va conduire les chercheuses d'abord à prendre la mesure du genre professionnel par l'écoute, et ensuite à sélectionner des verbatims dans les entretiens qu'elles ont menés avec chacune des enseignantes de l'école pour les mettre en discussion et faire émerger des besoins de connaissances mathématiques, des besoins en didactique et en pédagogie, afin de co-élaborer une progression. Alors, de ce point de vue, l'observation participante de chercheurs, je l'avais évoqué pour le point précédent, mais elle revient à plusieurs reprises dans des travaux qui sont présentés dans l'ouvrage, ça peut être un moyen pour ménager ce déplacement, hein, puisqu'elle permet à la fois de nourrir la réflexion sur les usages, de comprendre les logiques du genre professionnel, mais aussi de commencer à explorer des marges de manœuvre. Et de ce point de vue-là, le chapitre sur les outils numériques à l'école en offre des illustrations, et de ce point de vue-là, je fais une petite parenthèse, j'aurais voulu le dire plus tôt, mais c'est vrai que je salue particulièrement les auteurs de ce chapitre, Sandra Dogri, qui est chercheuse à EMA, et Michel Spack, qui est le référent intelligence artificielle au rectorat de Versailles, parce qu'au moment de la réception des épreuves, dans le temps d'un week-end, en fait, ils ont actualisé leur chapitre pour tenir compte, effectivement, des questions posées par l'utilisation par les professeurs des écoles de l'intelligence artificielle, en s'appuyant notamment sur une enquête qu'ils avaient faite auprès des étudiants en formation de professeurs des écoles. Alors, pour revenir à un point plus général, une des difficultés majeures de ces recherches, c'est de les ancrer dans la durée, au-delà de l'année scolaire. Et alors, je dirais, en termes de méthodologie, les recherches continuées dans l'usage affrontent cette question, hein, pour produire des outils, hein, on pense aux ouvrages de Guagou et Seb comme Lecteur Electrix par exemple, mais aussi à d'autres dispositifs qui ont pu être présentés au colloque, comme par exemple ce collectif intermétier dans le Doubs, qui réunit dans un format qui est ouvert et renouvelé un IEN, des CPC, des PEMF, des professeurs d'école à la fois expérimentés et débutants, pour une alternance entre des formations, des observations croisées de séances et une recherche-action. Alors, certains de ces dispositifs, c'est le dernier point, hein, se revendiquent des lesson studies, et on a eu un certain nombre de communications sur ce thème lors du colloque. Et de ce point de vue-là, la comparaison internationale est intéressante. Si l'on compare, par exemple, le rôle des cadres de l'éducation nationale dans la mise en œuvre des plans français et des plans mathématiques, qui s'inspirent des lesson studies, dispositif a priori horizontal, hein, puisqu'il s'agit de cycles de conception d'une séance d'enseignement-apprentissage qui est mise en œuvre, observée par les pairs, discutée, aménagée pour un nouveau cycle. Donc, si on compare cette déclinaison française à celle qui est proposée en Suisse, on a là en Suisse plutôt des facilitateurs qui sont décrits par nos collègues comme une sorte de caméléon, chercheur, formateur, enseignant, pédagogue, didacticien, qui habite différents rôles sans toujours en avoir conscience. Donc plus d'horizontalité par rapport à l'adaptation française, mais une certaine opacité du fait de ce jeu entre différents positionnements qui peut être source de difficultés aussi, hein, pour la collaboration entre participants. Alors, comment là aussi est approchée la complexité? Ces dispositifs entretiennent un potentiel formatif, hein, c'est parce qu'ils sont soumis à une exigence de réflexivité. Hein, il s'agit de comprendre les pratiques et de les enrichir, hein, ce qui va supposer, hein, comme le défendent à la fois Roland Goigou, mais aussi Patrick Picard, hein, de promouvoir une recherche en éducation qui est inscrite dans une triple logique, à la fois observatoire, hein, conservatoire et laboratoire des pratiques d'enseignement. Donc observatoire pour comprendre l'activité ordinaire des professeurs. Et au colloque, on a eu des interventions très intéressantes des collègues intervenant dans l'observatoire de l'OCCE. Conservatoire afin d'assurer la transmission, hein, de leur savoir, de leur technique, de leur savoir-faire, et laboratoire au service d'une amélioration, amélioration des apprentissages pour les élèves qui ont le plus besoin de l'école pour apprendre. Et améliorer ces apprentissages, c'est donc comprendre la nature des difficultés, hein, qui sont rencontrés, en caractérisant les gestes professionnels qui suscitent l'activité des élèves et réciproquement en analysant le sens et la qualité de cette activité, hein, pour remonter à l'ajustement des gestes professionnels. Alors de ce point de vue-là, le multi-agenda de Dominique Bucheton et Yves Soulet est très sollicité dans ses travaux. Cette modélisation se trouve enrichie par les travaux d'Éric Saillot, qui inclut l'activité des élèves et en fait un outil pour les débutants. Mais le traitement de ces difficultés renvoie aux conditions d'exercice, au sentiment d'empêchement que génère la multiplicité des injonctions souvent contradictoires. Et c'est l'ensemble de ces questionnements qui permet d'appréhender, hein, la complexité de ces dispositifs qui jouent sur plusieurs échelles, hein, le micro, le geste, le méso au niveau de la séance d'enseignement-apprentissage, le macro sur le contexte de l'école, le contexte politique, et à partir de différents points de vue si on est dans une collaboration plurielle. Et donc des dispositifs qui s'interprètent, hein, à travers des médiations, des ajustements, hein, et c'est là que je renvoie aux travaux d'Éric Saillot. Donc, potentiel formatif, là je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu. J'ai souhaité faire un focus sur une des modalités originales du colloque, à savoir ce qu'on a appelé les symposiums recherche-formation. Donc il s'agit d'initiatives qui ont été préparées par des équipes pluricatégorielles pendant l'année universitaire qui a précédé le colloque. Et elle portait sur l'appropriation de la recherche par des formateurs et des enseignants en formation. Et donc celle que j'ai choisie, que je présente ici, a réuni des enseignantes chercheuses et des enseignantes qui ont participé aux recherches Lire Écrire au CP, donc dirigée par Roland Guagou, et à la recherche Réalang, donc réalité des apprentissages en études de la langue, dirigée par Patrice Gourdet et Morgane Beaumanoir-Sec, ainsi que des formatrices et des professeurs d'école intervenant sur le site d'Antony. Hein, car si le colloque s'est tenu à Cergy, l'ambition était que la journée du mercredi soit animée dans tous les sites de formation par des intervenants, des interventions impliquant les étudiants, les stagiaires et les formateurs. Et je salue à nouveau Pascal Fonté, qui était responsable du site d'Antony et qui a été donc la cheville ouvrière de cette journée du mercredi du colloque. Donc, comme vous le voyez sur le diaporama, nous avons pendant toute l'année tenu des réunions pour confronter nos interventions auprès des PE avec des recherches portant sur l'observation des pratiques ordinaires et caractérisant les classes les plus équitables. Nous avons constamment veillé à travailler dans une complémentarité avec une éthique de la collaboration qui suppose à la fois ce tact pédagogique et cette reconnaissance des expertises mutuelles. Et cela nous a conduit à la fois donc à concevoir une séance qui a été mise en œuvre en formation et analysée, à concevoir un outil de formation pour analyser des productions orales et à étudier des mémoires d'étudiants de façon à concevoir des outils pour leur permettre de mieux exploiter leur corpus forcément limité en les mettant en relation avec d'autres, et donc en partant des problèmes rencontrés par les étudiants dans leur première expérience de recherche. Donc, dernier point sur la compréhension de l'écrit. Une question à fort enjeu social, je ne révèle aucun secret, puisqu'elle est devenue un instrument de pilotage des politiques publiques avec les évaluations internationales que sont PISA et PIRLS, mais également des évaluations nationales. Qui sont basés sur un traitement quantitatif d'un certain nombre de prédicteurs de compétences littéraciques, mais avec le risque que l'enseignement se modèle sur les caractéristiques de l'évaluation plutôt que l'évaluation régule le processus d'enseignement-apprentissage. Bon, je caricature forcément, mais bon, c'est pour faire discuter ensuite. Et par exemple, la vitesse à laquelle un élève oralise la lecture d'un texte peut nous donner un indice sur les ressources cognitives qui lui restent pour la compréhension. Pour autant, le chronomètre, qui a pris une place croissante dans les classes avec la mesure de l'affluence, n'est pas un instrument d'apprentissage. Et pour aller plus loin, il est nécessaire de clarifier la nature de l'activité. La compréhension de l'écrit est-elle uniquement une compétence technique que l'on peut atteindre en entraînant indépendamment différentes habiletés décontextualisées, ou est-ce que c'est une des facettes de l'activité langagière dans sa globalité qui implique à la fois le langage oral, le langage écrit et le langage intérieur, qui chacun reconfigure à mesure que les locuteurs explorent les différents genres de textes à la fois plus divers, plus complexes dans les différentes disciplines. Donc, ils vont développer des habiletés décontextualisées qu'ils vont devoir décontextualiser, recontextualiser quand ils passent d'une discipline à une autre. Donc, c'est un processus complexe, global, et si l'interprétation est au cœur de cette activité, la question de recherche va être comment, comment dans la classe s'élaborent les significations, comment dans l'interaction elles s'élaborent avant que le processus s'internalise dans une pratique autonome de la lecture, d'où l'importance des gestes de reformulation, d'institutionnalisation que les recherches ont pu montrer, de même que l'intérêt des débats qui accompagnent la lecture des œuvres de littérature de jeunesse, l'intérêt des supports transfictionnels qui assurent des ponts entre la culture populaire et la culture scolaire, ou encore des discussions à visée philosophique qui ont donné lieu à plusieurs symposiums dans le cadre du colloque. Et dans ce contexte, la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative dans les usages des professeurs des écoles, comme on a pu l'observer dans notre enquête, nous amène à nous poser des questions, à savoir quel risque il y a à déléguer des gestes professionnels à une entité qui est capable de produire des textes cohérents sans véritable compréhension sémantique, avec un risque d'une pédagogie désincarnée où l'activité de l'élève perd en densité cognitive en recevant des réponses nécessairement standardisées. Donc, pour accéder la compréhension de l'écrit dans sa complexité, les recherches donc s'efforcent de la contextualiser en la situant dans une société littéracique où l'écrit investit toutes les sphères d'activité, ce qui suppose de prendre en compte les fonctions de l'écrit, les rapports de domination qu'il institue, la diversité des genres de l'écrit et de l'oral, les transformations technologiques qui ont des incidences sur ces genres. Et dans une perspective d'enseignement, il va être nécessaire de spécifier les stratégies selon les domaines d'activité et selon les champs de savoir, dans la mesure où chaque discipline se caractérise par une manière de penser, dire, lire, écrire, qui est constitutive du savoir qu'elle développe. Et l'entrée dans ce qu'on appelle les communautés discursives, après Jean-Paul Bernier, Martine Jaubert et Maryse Rébière, suppose qu'on s'appuie sur des caractères énonciatifs, des caractères lexicaux et des caractères plus globaux de ces textes de savoir, mais aussi qu'on déplie les implicites, qu'on mette au jour les interprétations partagées, les contradictions objectivées, les malentendus. Les recherches ont permis ainsi d'accéder aux conceptions de la lecture et de son apprentissage, tant du côté de l'enseignant que des élèves. Christine Barré de Mignac avait initié ces questions sur les deux volets, et cela a ouvert la voie à une approche plus réflexive de ces questions en formation. Alors, pour terminer, j'ai choisi de faire un focus sur une recherche qui est issue d'une commande institutionnelle de l'Académie de Versailles et qui offre un complément et une alternative aux évaluations nationales. Elle est à l'initiative de la correspondante Académie... la correspondante académique pour l'éducation prioritaire de l'Académie de Versailles, qui a sollicité deux enseignantes-chercheuses, Marie-France Bishop en sciences de l'éducation et Karine Royer en psychologie cognitive. Donc cette recherche a réuni à la fois des CPC, des PEMF, des IEN et des IPRIA des quatre départements de l'Académie. Et le travail a donné lieu à deux articles, l'un dans les cahiers pédagogiques par Sandrine Bertrand et Thomas Picard, qui sont tous les deux professeurs d'école formateurs et membres du collectif qui a élaboré cette évaluation, et Marie-France Bishop et Thomas Picard qui ont fait dans la revue Repère un article dans lequel ils ont comparé trois évaluations, l'évaluation nationale CM1, l'évaluation académique donc CM2 et l'évaluation nationale 6e. La particularité de l'outil qui a été conçu dans l'Académie de Versailles, c'est l'accent mis sur les inférences, et notamment les inférences élaboratives qui supposent de mettre en réseau les connaissances de l'élève, les connaissances de la langue pour former la représentation du texte à lire. Il se caractérise également par la conception de ressources qui explicitent les gestes professionnels en jeu dans une perspective de recherche continuée dans l'usage. Et il a permis, compte tenu du fait qu'il y a eu comparaison avec les évaluations 6e, qui, elles, étaient beaucoup plus centrées sur les compétences de bas niveau, orthographe et inférence, mais plutôt inférence de liaison, hein, pas inférence élaborative, les inférences de liaison, par exemple dans les anaphores, hein, le chat, il... et donc de réfléchir sur un travail interdegré avec cet outil permettant de faire le lien entre ces trois évaluations. Donc, pour conclure, il me semble qu'à travers ces trois points forts du colloque dans la partie dont j'avais la charge, il y a certains points de vigilance par rapport aux inégalités scolaires. Pour l'école maternelle, donc... cette question de l'exigence de résultats à court terme qui peut être source d'échecs précoces et cumulatifs, le signal danger, hein, à savoir cette absence quasi généralisée de formation spécifique à et pour l'école maternelle, qui est vraiment un obstacle au renouvellement pédagogique, et là je pense que nous aurions à apprendre de nos voisins. Pour les dispositifs collaboratifs, hein, le fait que, hein, on a vu, ce sont des dispositifs multiregistres, et selon les médiations, les ajustements, un dispositif peut être porteur ou non d'apprentissage pour les élèves, de développement professionnel pour les enseignants. Donc il y a toujours ce travail d'ajustement et de réflexivité qui est nécessaire. Et pour la compréhension de l'écrit, il me semble que La principale difficulté, c'est le fait que le professeur d'école, qui est un professeur polyvalent, c'est lui qui est le médiateur entre les différentes communautés discursives, et c'est lui en même temps qui est le garant des différents cadrages disciplinaires et des chemins vers l'autorégulation. Et je terminerai pour conclure par... l'intérêt que j'ai trouvé à la thèse de Céline Camusson, qui a porté sur la façon dont les enseignants de l'école primaire concevaient leur support d'enseignement en histoire-géographie et en grammaire. Et la conclusion à laquelle elle arrive, c'est que... elle observe une configuration dans laquelle... qui est porteuse d'une réduction des inégalités, c'est quand les enseignants arrivent à la fois à proposer des supports qui sont peu complexes sur le plan langagier et sémiotique, enfin d'une complexité adaptée, hein, aux élèves, mais exigeant, hein, du point de vue du cadrage, du point de vue de l'activité cognitive qui est exigée des élèves à un moment donné pour s'approprier le savoir. Et ce qu'elle montre bien, c'est que cette configuration, hein, dans son enquête, elle l'observe assez peu, hein, parce que cela suppose de la part des enseignants un temps conséquent hors de la classe pour s'approprier les ressources, comprendre les soubassements didactiques Et on revient à la question qui a été posée avec le premier article sur lequel on a fait un focus. La formation continue actuellement ne permet pas aux enseignants de répondre à ce type de besoin. Il faudrait pouvoir dégager du temps pour permettre aux enseignants de proposer aux classes des situations exigeantes pour les élèves.